Strip Sismique.
Oh non, encore une émission sur la bande dessinée.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Strip Sismique, une émission consacrée à la bande dessinée et aux fanzines. Un dimanche par mois sur Radio Campus Paris. Ce soir, pour cette première émission, nous avons le plaisir de recevoir Amélie Mougey, rédactrice en chef de la revue dessinée. Et une chronique, nous parlerons de Morveuse, de Rebecca Rosen, publiée par l'Employé des Mois en septembre 2019, La vie intelligente, d'Aurélie William Levaux, éditée par Atrabile en février 2019, et Le Royaume d'Ovide, d'Olivier Texier, publié par Cornelius en août 2019. Mais commençons par l'interview. Julia, je te laisse la parole.
Merci Camilla. Donc bonjour Amélie Mougey, bienvenue dans Strip Sismique. Comment ça va ?
Ça va très bien.
Super. Alors vous êtes la rédactrice en chef de la revue dessinée, qui est un magazine qui existe depuis 2013 et qui hybride journalisme, documentaire et bande dessinée. Est-ce que vous pouvez me dire quelques mots sur ce qui fait les spécificités du magazine ? Par exemple, d'où est venue l'idée à l'origine et depuis quand vous y êtes peut-être vous ?
Alors, la revue dessinée, c'est unique, je crois, en son genre, par le fait de marier des auteurs de bande dessinée, enfin de marier professionnellement et temporairement, des auteurs et autrices de bande dessinée et des journalistes qui vont collaborer le temps d'un sujet, le temps d'une enquête ou d'un reportage pour mêler leurs deux métiers et puis leurs deux langages et produire une bande dessinée dans laquelle tout est vrai. La revue dessinée, donc ça existe depuis 2013, c'est né du côté de la bande dessinée plutôt. C'est né de l'envie de dessinateurs, d'auteurs de bande dessinée qui étaient passionnés par l'actualité, d'utiliser ce langage qui est celui de la bande dessinée pour raconter ce qui les intéressait, des faits de société, des faits politiques, et d'utiliser cette formidable palette qui est celle de la bande dessinée pour parler du monde. Et puis petit à petit, les journalistes sont rentrés dans la boucle et moi, je suis arrivée au numéro 2. En tant que pigiste, et j'ai rejoint la rédaction, je ne sais plus la date exactement, mais il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans, au poste de rédactrice en chef, où je suis plus en coordination, où justement je forme ces binômes de dessinateurs, dessinatrices et journalistes, et où j'accompagne les projets.
Donc depuis 2013, comment avez-vous l'impression que la revue dessinée a évolué ?
Dans le bon sens, j'espère. C'est compliqué à dire parce qu'il y a des constantes. Il y a des auteurs qui reviennent très souvent, qui étaient présents dans les numéros, dans les premiers numéros. Là, dans le numéro qui vient de sortir, Taina Tervonen et Jeff Pourquier collaborent sur un sujet qui parle des nouvelles frontières de l'Europe, en gros des frontières de l'Europe au Niger. Alors ça paraît paradoxal comme ça, mais en gros c'est l'Europe est-elle en train de délocaliser ses frontières, de délocaliser qu'on peut trivialement appeler le tri entre bons réfugiés et mauvais migrants, migrants économiques, enfin tel que c'est orchestré par l'Union européenne et par les pouvoirs publics. Donc c'est un sujet qui est le prolongement de sujets qui ont existé dans la revue dessinée autour de cette thématique de la migration et de comment l'Europe gère ça. Et donc ça, c'est vraiment une constante. Après, il y a des choses qui ont évolué, il y a des nouvelles chroniques qui sont apparues, il y a des constantes, mais qui changent aussi. Par exemple, on a le binôme Catherine Le Gall et Benjamin Adam, ils se sont tous les deux beaucoup intéressés à l'économie en bande dessinée, les sujets de décryptage, des partenariats publics-privés, des emprunts toxiques, enfin des sujets très techniques et arides qu'ils ont réussi à rendre passionnant grâce à la bande dessinée, et ben ils continuent à le faire, mais sur de nouveaux sujets. Donc il y a des évolutions très fortes dans les thématiques abordées qui suivent l'actualité, qui suivent l'air du temps. Et on a une chronique écologie qui est apparue, une chronique sur le travail. Donc on reste, l'ADN reste toujours un peu le même, et des nouveaux auteurs, des nouvelles autrices arrivent pour apporter leurs idées, leurs envies, leurs sujets et nous faire nous renouveler numéro après numéro.
Et justement, comment ça se fait finalement, les binômes, comment ils sont formés ? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes ? Vous avez plus de dessinateurs que de journalistes qui vous contactent ? Est-ce qu'ils se choisissent ? Vous organisez un peu les rencontres ?
Alors, c'est rare qu'ils choisissent. C'est plutôt la revue dessinée. Donc, pour filer la métaphore, est une agence matrimoniale de dessinateurs et de journalistes. On part généralement d'un sujet, d'une envie, ou d'une nécessité. On se dit à ce moment-là, il faut qu'on traite de ça parce que c'est important, parce que ça n'a pas été traité de la bonne manière ou que nous, il faut qu'on y soit parce que c'est des sujets qui nous prennent au trip et qui ont pour nous qui méritent d'exister. Donc, soit ça part d'un sujet auquel on a réfléchi au sein de la rédaction, qui nous est venu comme ça parce que l'envie, parce que le besoin, soit ça part des propositions de journalistes, donc tout part du sujet. On se dit qu'il faut qu'on aille là, à cet endroit, parler du bilan de Christine Lagarde au FMI, parler des conditions de vie des compagnons Emmaüs, parler du trafic de drogue à Marseille, parce qu'il y a une problématique qui émerge et qui nous importe et qu'on trouve socialement intéressante, politiquement intéressante. Une fois qu'on a ça, une fois qu'on a le sujet, soit on a déjà le ou la journaliste qui porte le sujet parce que ça vient d'une proposition, soit nous, on va lire des choses et on va essayer de chercher la personne qui a le plus bossé et qui est le plus pertinent à nos yeux, selon notre ligne éditoriale, pour traiter de ce sujet-là. Une fois qu'on a le sujet et le ou la journaliste, on va chercher un style graphique qui se prête à ce sujet-là. Selon la nature du sujet, selon si c'est un sujet très abstrait, très technique, peut-être un sujet économique par exemple, ou un sujet, je pense aux chiffres du chômage, essayer d'expliquer. Là, on va aller chercher un dessin qui est capable de s'emparer d'un sujet qui n'est pas forcément hyper incarné, où il n'y a pas forcément un récit, des personnages, des lieux, où on est plus en abstraction. On va voir un peu dans quel genre graphique on a envie d'aller. Et après, nous viennent des noms et des œuvres d'auteurs et d'autrices de bande dessinée. Et petit à petit, on va aller chercher, ça va s'affiner, on va aller chercher le binôme ou la binôme du journaliste qu'on a lancé sur un sujet. Pendant ce temps-là, le journaliste enquête, écrit, parce qu'on n'est pas encore dans la phase de traduction en bande dessinée. Alors parfois, il réserve certains rendez-vous ou certains moments de terrain, de reportage, pour emmener sa binôme avec lui. Ensuite, dans cette recherche de dessinateur, on va sonder des personnes qui sont peut-être déjà occupées pour les 3 prochaines années sur un album ou 2 albums ou une série d'albums, d'autres qui sont pas forcément hyper intéressées par ce sujet-là, mais qui aimeraient beaucoup bosser sur autre chose. Donc du coup, il y a un peu un mélange de nos envies, les besoins du sujet. Par exemple, si c'est du reportage, il faut qu'on ait quelqu'un qui arrive à faire du croquis, qui arrive à saisir, à avoir un dessin plus réaliste ou semi-réaliste, et qui arrive à incarner des scènes, des situations, les rendre vivantes. Donc vraiment, ça part des besoins du sujet, le choix de la personne. Après, il y a des logiques de calendrier aussi un peu. Parfois, on a besoin que le sujet... Là, on a lancé un sujet très, très vite sur... la bataille d'édition sur la page Wikipédia des Gilets jaunes. Et là, il fallait qu'on soit dans les clous pour l'année anniversaire du mouvement. Enfin, ça nous paraissait pertinent. Et du coup, il a fallu qu'on trouve quelqu'un qui dessine très vite. Donc, il y a pas mal de critères qui rentrent en compte et les envies. Après, on fait se rencontrer journaliste et dessinateur. Et puis là, on prie pour que les caractères soient compatibles et que le mariage soit le plus heureux possible.
Effectivement, à propos des Gilets jaunes, j'ai un peu pioché dans les derniers sommaires et j'ai vu que vous n'avez apparemment, au moins je n'ai pas trouvé, vous n'avez pas parlé des Gilets jaunes jusqu'à maintenant. Vous avez fait un article sur les Black Blocs, ça fait quelques numéros. Mais pourquoi donc vous avez décidé d'attendre une année?
En fait, on n'a pas attendu, dans le sens où toutes les thématiques qui traversent le mouvement des Gilets jaunes, la question, l'importance de la route dans le quotidien, des 80 km/h au prix de l'essence, on l'a traité dans un sujet qui était justement, ça s'appelle Sortie de route, je crois. Mm-hmm. Et c'était avant le mouvement des Gilets jaunes, il avait paru à ce moment-là, et c'était sur le sentiment d'abandon et de précarité et... En fait, sur les raisons de la colère des Gilets jaunes, toutes les raisons de la colère étaient présentes dans ce sujet-là. Alors, on ne parlait pas encore de Gilets jaunes parce que le mouvement n'avait pas explosé, mais on parle de tous les ferments de ce mouvement-là dans ce sujet. Et ensuite, on n'attendait pas, mais on n'est pas capable, en bande dessinée, de réagir à l'actualité, comme peut le faire une radio, ou comme peut le faire la télé, ou comme peut le faire un journaliste de presse écrite, parce que nous, il y a un peu... Le temps oui. Et prend beaucoup plus de place et les projets prennent plutôt des mois. Un sujet de la revue, on va le lancer à 9 mois à l'avance. Donc, il faut qu'on soit certain que le sujet sera toujours pertinent 9 mois plus tard. Mmh. Il faut qu'on soit juste, du coup, dans le... Parce que la bande dessinée sert de tamis entre les sujets qui vont juste exploser comme ça. Et puis, 2 semaines plus tard, on n'en parlera plus. Nous, ces sujets-là, on les met de côté tout de suite. Enfin, on se dit, c'est pas pour nous, quoi. C'est pour les médias de flux. C'est pour les médias qui sont plus en prise avec l'actualité. Et donc, le mouvement des Gilets jaunes, on attendait de trouver la bonne idée pour y aller sans répéter 3 mois plus tard ce que tout le monde avait dit. Et du coup, on a cherché. D'accord. Et alors, c'était pas... Si, je pense que c'est une bonne idée, de la manière dont on l'amène là, parce que c'est un peu toutes les problématiques et tous les débats qui ont traversé le mouvement, on va les retrouver dans ce sujet et on va pouvoir remonter le temps, récapituler. Parce que la bande dessinée, ça nous permet ça aussi, ça nous permet de dérouler la pelote et aussi de faire des marches arrière et tout s'est enchaîné beaucoup trop vite et peut-être que vous n'avez plus en tête tous ces événements ou alors que vous avez lu de manière parcellaire et fragmentée dans la presse certains passages mais pas tout et en tout cas ça fait pas sens et nous la bande dessinée ça permet de mettre côte à côte plein d'éléments qui c'est ce qu'on a fait avec en album avec l'affaire Sarkozy-Kadhafi où moi à un moment j'y comprenais plus rien parce que ça je savais plus qui était Alexandre Djoury, je savais plus parce qu'il y avait trop d'articles, il y avait trop de révélations, il y avait trop d'intermédiaires sulfureux, et la bande dessinée ça nous permet de mettre côte à côte, de rassembler toutes les pièces du puzzle et du coup il faut vraiment qu'on utilise ce temps qui est une contrainte, on peut pas aller plus vite que le dessin parce que il y a la phase de board, puis il y a la phase de crayonner, puis il y a la phase de mise en couleur, puis il y a la phase de où on travaille à l'intérieur des cases dans la typo, enfin tout ça est long et c'est bien et en fait c'est bien dans le sens où on fait de cette contrainte une force et ça nous permet d'éviter les travers de l'actu, enfin du traitement médiatique qui court après l'actualité.
Justement, je me demandais quels étaient les types d'avantages, de contraintes de ce format particulier. C'est vrai qu'il y a un aspect un peu documentaire parce que cette contrainte de temps fait que les sujets vont être très approfondis, et on va revenir à des événements qui sont arrivés 9 mois avant, etc. Ce qui est chouette. Mais il doit y avoir aussi donc d'autres avantages, j'imagine, de ce format ou d'autres contraintes. Mmh.
Dans les avantages que je vois, moi, en tant que lectrice de BD ou d'info, c'est à la sensibilité. Le fait de passer à travers un regard créatif, artistique, à travers un rapport au sujet qui n'est pas juste mécanique et informatif. Il y a quelque chose alors qui peut exister dans le grand reportage, dans le long reportage, quand il y a la plume du journaliste qui s'exerce, ou dans le documentaire, quand il y a un vrai regard d'auteur. Mais la bande dessinée, comme un dessin ne peut pas ressembler à un autre dessin, comme il y a forcément l'empreinte et l'identité de la personne qui dessine, eh bien, on a forcément une subjectivité. Et je trouve que ça fait beaucoup de bien au journalisme d'assumer cette subjectivité et d'avoir un regard qui ne soit pas uniquement... en fait, on est un supplément d'âme, quoi, qui est très fort. Thank you.
premier morceau de la soirée, Chloé, de Duke Ellington. Nous sommes toujours en compagnie d'Amélie Mouget, rédactrice en chef de la revue Dessinée.
Alors, c'est l'impression, je ne sais pas si vous avez des... J'imagine que vous avez des statistiques sur vos lecteurs, mais j'ai l'impression que vous êtes beaucoup lus dans les milieux universitaires. Et je me demandais s'il y avait des intellectuels qui voulaient se faire illustrer dans votre revue, si vous aviez des propositions comme ça de vulgarisation scientifique ou pas.
Alors, je ne sais pas qui nous lit exactement. On a fait des questionnaires, mais qui ne sont pas quantitatifs, qui sont plus... Je sais ce que lisent les personnes qui nous lisent. Je sais quelle presse, je sais qu'il y a des lecteurs du Monde Diplo, je sais qu'il y a des lecteurs de Courrier International, mais je ne sais pas s'ils sont, je sais pas s'ils ont 20 ans ou s'ils ont 60 ans. Je pense que ce sont des gens qui ont une curiosité. Et ensuite, sur le volet universitaire, on fait intervenir des chercheurs dans nos bandes dessinées, justement parce qu'il y a cette dimension documentaire avec cette volonté d'approfondir et de creuser des sujets. Et donc, certains et certaines se retrouvent dessinées. Après, on a des propositions parfois d'universitaires aussi, de chercheurs, de chercheuses. On a une expérience assez contrastée de ces collaborations parce que il y a un besoin de synthèse pour la bande dessinée, enfin pour faire rentrer dans une bulle et pour faire rentrer dans une case, une contrainte que les journalistes ont vraiment en tête et qui est peut-être plus compliquée pour quelqu'un qui vient du monde universitaire et qui rédige de manière peut-être un peu plus développée, un peu plus déployée et puis qui va mettre beaucoup de nuances et de précautions de langage et alors ça ne veut pas dire que les journalistes font n'importe quoi, mais quand on donne une matière qui vient de chercheur à un auteur de bande dessinée, on a parfois des noyades, une difficulté à mettre ça en récit parce que autant un journaliste qui va faire du reportage, il va nous trouver des scènes vivantes, il va voir là Emmaüs on est arrivé et voilà ce qui se passait, il va choper des petites phrases comme ça qui vont donner de la chair. Les travaux universitaires, il y en a certains, et on a notamment travaillé avec Quentin Ravelli sur l'industrie pharmaceutique.
Ah oui, la stratégie de la bactérie.
Exactement. Et ça avait parfaitement fonctionné parce que c'est très concret. Il y avait un terrain, enfin, il y avait vraiment beaucoup de matières vivantes et pas seulement la bactérie mais aussi tous les protagonistes de cette histoire et un suivi sur le temps long et ça avait fonctionné. Après quand c'est vraiment très très théorique, c'est un défi quoi pour défi que d'autres relèvent aussi. Il y a Sociorama, il y a aussi des collections qui sont plus spécialisées là-dedans dans la collaboration universitaire dessinateur et nous de temps en temps, mais c'est pas forcément la règle. C'est plutôt des sources pour les journalistes ou des interlocuteurs qu'on va faire intervenir après dans les pages compléments de nos récits.
J'ai écouté un peu de vos interviews et j'ai trouvé que vous parlez d'une information critique engagée mais pas militante pour la revue dessinée et parce que vous dites que vous êtes attaché à la diversité des points de vue et des formes. Et je voudrais savoir quelle différence faites-vous entre une information critique et une information militante. Parce qu'au même temps, vous vous dites, on ne soupçonne jamais un dessin d'être neutre. Et c'est donc un outil fabuleux pour transmettre des combats, comme une cellule pour la reconnaissance de la toxicité des algues vertes, par exemple. Donc, quelle différence faites-vous entre ces deux types d'informations ?
Je pense que c'est dans la pratique journalistique que tout se joue. Dans le sens où on n'écrit pas des tracts, on écrit... Dans le sens où on ne va pas chercher à démontrer, coûte que coûte, quelque chose qui nous arrangerait parce que ça correspond à la ligne de la revue dessinée. Si, à l'épreuve du terrain et de l'enquête, on se rend compte que ce qu'on cherchait est faux, n'existe pas, que la situation est plus compliquée que ça, que ce n'est pas manichéen, que ce n'est pas, je sais pas, le grand méchant industriel contre le petit agriculteur, ou je dis n'importe quoi, mais... on ne va pas être à défendre une thèse. On va se poser des questions qui nous paraissent fondamentales, sur lesquelles on a besoin d'informations, on a besoin de révéler des mécanismes et des systèmes. Si la réalité ne correspond pas tout à fait à ce qu'on imaginait, on ne va pas la passer sous silence. On a dans la pratique du journalisme une déontologie qui fait qu'on va laisser de la place au contradictoire. Quand on va mettre quelqu'un en accusation, on va chercher sa parole en face. On ne va pas se contenter de, par exemple, ce que dit une association militante sur le sujet des algues vertes ou d'autres. On va récolter cette parole, elle va nous aider à avancer dans l'enquête et on va l'interroger. Et on ne va pas la prendre pour argent comptant. Et c'est peut-être là la différence entre un journalisme critique engagé et un journalisme et une pratique militante qui serait d'aller chercher des gens qui pensent plutôt comme nous et de leur ouvrir nos pages sans interroger les faits qui sont amenés et sans avoir cette distance critique vis-à-vis des sujets qu'on traite. Et voilà, on vérifie nos sources, on cherche du contradictoire et on va en effet sur des sujets qui nous... en fait, c'est le choix de nos sujets et c'est le choix des questions qu'on se pose et des angles qui sont ceux qu'on va choisir de tenir, qui font l'engagement de la revue. C'est pas une volonté d'être pamphlétaire ou d'être volontairement sur une... On n'a pas un ton militant et on n'a pas prétention à dire au lecteur ce qu'il doit penser. On va juste creuser dans cette direction parce que c'est là que ça nous paraît pertinent. Quoi. D'aller interroger le Black Bloc, par exemple, d'aller un cran plus loin que ce qu'on voyait dans la presse et de se demander, quand on parle de caisseurs, est-ce que le terme fonctionne, d'aller chercher des universitaires qui ont travaillé là-dessus, d'avoir des témoignages de personnes qui nous disent bah non, mais en fait c'est une tactique et c'est pas une identité. Et cette tactique, voilà comment on l'a pensée, voilà quels sont les effets qu'on espère. On n'est pas dans une apologie du Black Bloc et en même temps, moi j'ai l'impression qu'on termine cet article en se disant, on n'avait pas vu les choses sous cet angle-là, et ça me paraît intéressant aussi de déplacer le regard, et en ça, je pense qu'il y a un engagement, de se dire, peut-être que le terme casseur est réducteur, peut-être que le traitement est réducteur, et d'aller interroger la violence physique contre des vitrines, et de la mettre au regard d'une violence sociale qui peut s'exercer autrement. C'est un journalisme engagé. Le fait de soulever cette question-là, c'est un journalisme engagé. Mais dans le résultat, c'est pas du tout militant dans le sens où on donnerait une supériorité à cette tactique, où on se prononcerait, où on dirait au lecteur quoi penser à la fin de ce mode d'action. Quoi.
Et par rapport à la déontologie dont vous parlez tout à l'heure, je voudrais savoir, j'ai une question technique sur les modèles économiques de la revue dessinée. Donc, j'ai vu que vous avez des actionnaires. Est-ce qu'ils ont un regard sur les choix de sujets, par exemple ?
Bah, les actionnaires, c'est les fondateurs de la revue. D'accord. Donc, les personnes qui ont lancé la revue dessinée, qui ont choisi tous les sujets des premiers... En fait, c'est les personnes qui font la revue dessinée. En fait, la revue dessinée appartient à la revue dessinée. Je pense Franck Bourgeron et Sylvain Ricard, les fondateurs, sont aussi les actionnaires. Mm-hmm. Et c'est comme ça que c'est parti. C'est chacun a mis un peu au pot pour pouvoir créer ce projet-là. Et du coup, on fait les confs de rédac ensemble, l'équipe de rédaction de la revue dessinée qui est aussi l'équipe actionnariale de la revue dessinée, donc l'indépendance elle est totale et du coup on peut pas parler de droit de regard parce qu'on a tous les mains dans le cambouis et ça c'est hyper précieux, enfin le fait d'avoir cette indépendance, le fait de pouvoir que ce soit la rédaction qui soit complètement autonome et qui ne puisse subir aucune pression, si ce n'est les avis des uns et des autres en conférence de rédaction. Moi, je trouve que c'est pertinent. Moi, je trouve que c'est moins pertinent que ce que tu dis. Et si on le prenait sous un autre angle, et ben voilà, c'est à aucun moment on aura un coup de fil de quelqu'un nous disant non, pas là parce que ça risque de froisser. Je pourrais citer des acteurs mis en cause, mais non, et ça c'est hyper précieux. Même même si la pression s'exerce pas de manière aussi caricaturale que ce que je dis là, avec des coups de fil, ou... mais juste le fait de savoir qu'on a une totale liberté. Le seul critère, c'est la pertinence. C'est rare et c'est précieux, ouais.
Justement, comment ça fonctionne les prises de décision? Donc, c'est collaboratif, délibératif? Est-ce que les journalistes, les dessinateurs qui font les sujets ont plus peut-être de légitimité à dire ce qu'ils veulent faire, eux, à prendre des décisions ou,
C'est... Alors, on est une petite équipe et... c'est un peu 12 hommes en colère, on essaye de se convaincre les uns les autres. Et du coup, quand quelqu'un est vraiment, vraiment convaincu que ce sujet, il faut le faire, on se fait confiance et on se dit que oui, même si moi, mon intérêt va pas spécialement là. Je sais pas, moi, par exemple, le dopage dans le cyclisme, je m'en fiche un peu. Mais il y a... la force de conviction des uns et des autres joue et aussi ça nous permet, la revue c'est un peu la synthèse de nos centres d'intérêt, de nos indignations, de nos interrogations, de tout ça. Donc ça se fait vraiment de manière horizontale et dans les relations de travail avec les journalistes, moi je vois ça vraiment comme une coopération où on va réfléchir ensemble à la meilleure manière de traiter ce sujet-là, avec ce croisement des disciplines qui est hyper riche. Évidemment, un journaliste ne pense pas en case et en bulle. Donc du coup, il faut le regard et de gens qui viennent de la bande dessinée pour dire là en fait ce que tu nous as mis là c'est indessinable parce que c'est beaucoup trop théorique, c'est beaucoup trop complexe, là il faut que ça vive, il faut qu'il y ait des personnages, il faut qu'il y ait de la chair, et donc du coup ça va amener le journaliste à retravailler un peu son scénario. Et puis il y a des moments où je vais relire le scénario et je vais me dire il y a trois fois trop de texte, et puis on perd le fil et on perd l'angle, donc du coup on va avoir des discussions. C'est vraiment, c'est vraiment des processus de travail hyper collectifs, et moi je les envisage de manière assez horizontale, quoi.
Et j'ai une question par rapport donc à la revue dessinée qui a été quand même un énorme succès éditorial, et je voudrais savoir, mais est-ce que vous avez l'impression qu'à travers la revue dessinée vous participez à un repositionnement du champ de la bande dessinée vis-à-vis des autres arts, parce qu'à travers la revue dessinée, j'ai un peu la sensation qu'il y a une sorte de reconnaissance supplémentaire, genre là, qu'à travers la bande dessinée, on arrive à alerter l'opinion publique, donc il y a une sorte de... Parce que la bande dessinée est toujours un peu...
sous-estimée, en tout cas, elle pourrait gagner en légitimité.
Vous collaborez à une révalorisation de la bande dessinée, ou pas? À travers la revue dessinée.
Oui, absolument.
Oui, oui, mais...
Alors, comment...
Non, mais moi, je trouve que c'est à travers la revue dessinée, on a vraiment vu un regard changer sur la bande dessinée dans les dernières années, en France, au moins. Mais après, ça, c'est juste mon opinion. Peut-être que c'est très personnel. Vous ressentez ça comment? Est-ce que vous avez une impression, vous avez une idée sur ça ou pas?
Je pense que ça... Je vais essayer de ne pas faire une réponse immodeste. Mais non, mais je pense que ça s'inscrit dans quelque chose qui précède vraiment la revue dessinée. Dans le sens où utiliser la bande dessinée pour parler de choses sérieuses, il y a eu Maus d'Art Spiegelman. Il y a eu Joe Sacco, Palestine, Gorage, Gaza, 56. Il y a eu déjà des moments où on se dit... Punaise, la bande dessinée peut faire ça, quoi. Peut traiter de ces sujets-là, peut parler de l'Holocauste, peut parler... Et donc, je ne pense pas que ce soit la revue dessinée qui nous ait donné ce crédit et cette légitimité à la BD de s'emparer de sujets sérieux. Après, peut-être pour revenir au paysage français, je pense que du coup, il y avait une... Quand la revue dessinée est née, il y avait un terreau qui était favorable avec déjà un peu de bande dessinée du réel. Je pense qu'on a catalysé ça. En tout cas, la revue, c'est un labo dans lequel la bande dessinée du réel s'exerce, quoi. Et de ce labo sortent des trucs, par exemple, Cher pays de notre enfance de Benoît Colomba et Étienne Davodeau. C'est né dans les pages de la revue dessinée. Et c'est une leçon magistrale d'enquête en BD, quoi, où on voit Benoît Colomba, donc c'est sur les années plomb de la Ve République, le sac, tout ce qu'on ne connaît pas, en tout cas que moi je ne connaissais pas en étant née dans les années 80, les années de pouvoir de Gaulle. Et du coup, là, ça a donné lieu à un album derrière. Et puis là, récemment, il y a Sarkozy-Kadhafi, Des billets et des bombes, qui est aussi une démonstration voilà, la bande dessinée, c'est un outil formidable pour l'enquête, c'est un outil formidable pour ce journalisme d'investigation qui a un effet de sidération, quoi, quand on lit ces bandes dessinées-là. Et je pense que ça fait un peu la même chose avec Les Algues Vertes, qui est l'album qu'on a sorti au début de l'été, signé par Inès Leroux, qui est une journaliste d'investigation, et Pierre Van Hove. Et là, on a quelque chose qui aurait difficilement pu être fait à l'écrit. On a une démonstration et je pense que plus personne ne se dit que la bande dessinée, c'est un truc pour les enfants, c'est pas sérieux, c'est un passe-temps un peu débile pour personnes introverties. Enfin, je sais pas à quel point ça restait encore dans l'inconscient des gens, mais j'ai l'impression que c'est bon, quoi. La légitimité de ce médium est installée. Et qu'on a quelques albums à dégainer à ceux qui en douteraient encore.
En fouillant sur votre site, je suis sur la partie actualité, j'ai vu qu'il y avait tout une... C'était question d'écriture inclusive. Est-ce que... Avez-vous un avis sur la question ou pas?
Ah. Ça, alors oui, on a... j'ai un avis personnel, mm-hmm. mais qui m'appartient. Et après... En tant que rédactrice en chef de la revue dessinée, du coup, j'ai vu le potentiel clivant de cette question. Parce que du coup, on a fait un sujet sur le dopage dans la musique classique que le dessinateur a décidé d'écrire en écriture inclusive. Il a une typo qui est parfaite, c'est hyper soigné, ses cases sont toutes propres, toutes belles. Enfin, c'est... Et on a estimé, moi, en tant que femme, je ne me voyais pas et féministe, je ne me voyais pas dire à un auteur homme qui décide de lui-même de mettre de l'écriture inclusive dans ses planches, qui le fait de manière hyper soignée, enfin, parce que la question de la lisibilité, c'est une vraie question, c'est une question d'accessibilité aussi. Je ne me voyais pas lui dire « Ah non, non, on enlève et on passe tout au masculin, le masculin l'emporte ». Je ne me voyais pas prononcer cette phrase. Après, ça a déclenché des salves et des salves de mails. Ma boîte mail a totalement explosé, avec quand même majoritairement des femmes nous encourageant et des hommes nous menaçant de se désabonner.
De lecteurs, pas au sein de l'équipe, c'était vraiment
non.
Des lecteurs.
Ouais, vraiment de lecteurs. Au sein de l'équipe, on a débattu pas mal et puis on s'est dit qu'il fallait avancer et que justement le débat, on voulait l'avoir avec les lecteurs et lectrices et que du coup, allons-y de cette manière-là pour ouvrir le débat, ouvrir la boîte de Pandore, quoi. Enfin, vraiment, c'était Et du coup, il y a des arguments qu'on entend sur la question de la lisibilité, il y a des arguments qu'on entend moins. En tout cas, ça nous a permis de réfléchir avec tous ces retours de lecteurs et lectrices. Et l'idée là, la ligne, qui est une ligne de crête, hein, c'est de tendre vers une écriture plus inclusive, ce qui ne veut pas forcément dire toujours du point médian, parce que c'est vraiment le point médian, ça crispe, mais c'est un truc de dingue. C'est vraiment le petit point qui focalise énormément de tensions. Et du coup, on a envie de continuer sur cette voie-là, qui a été ouverte par Vincent. Et en même temps, essayer de ne pas perdre de lecteurs en route. Donc du coup, on va... pousser vers un maximum de noms épicènes, à la fois masculin, féminin, on va dire les personnes plutôt que les hommes, on va dire. Et on n'exclut pas de réutiliser du point médian en fonction des envies des auteurs et des autrices et en fonction de la pertinence pour un sujet. En gros, on n'a pas de ligne claire. On va continuer à expérimenter et tâtonner.
Est-ce que vous trouvez qu'actuellement, la bande dessinée, ça reste encore un domaine particulièrement masculin? Parce que j'ai quand même regardé, quand on regarde vos contributeurs et regardons les petits visages rouges, on voit parmi les dessinateurs, donc on a 104, si j'ai bien compté, dessinateurs hommes et 22 femmes. Mmh. Est-ce que c'est un problème, à votre avis, c'est parce que ça reste quand même encore un domaine très masculin?
Ou du moins, ou peut-être la bande dessinée, comme ça, d'investigation, peut-être
oui.
C'est un sous-champ masculin et il y aurait de la BD de femmes, en quelque sorte, de la BD d'hommes, pour le dire vite. Hein.
Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Enfin, sur le constat, je le partage et je le déplore. Mais renverser la... Enfin, équilibrer est compliqué. J'essaye du côté des journalistes de... Parce que j'ai l'impression qu'on a plus de marge de manœuvre, parce qu'on a aussi plus de propositions, parce qu'on a aussi plus de journalistes qui veulent travailler avec nous. La recherche de dessinateurs est plus compliquée parce que des personnes qui ont le temps, les capacités, le talent et l'envie de s'emparer de ces sujets-là, enfin, l'envie de faire 35 pages sur les emprunts toxiques ou les partenariats publics-privés, faut quand même...
c'est une vocation.
Voilà. Non, mais c'est vrai qu'on a un vivier qui est plus limité. Donc on a moins de marge de manœuvre. Après, ce n'est pas une excuse. Il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte pour expliquer ça, même s'il ne s'agit pas de le justifier. Je pense que structurellement, il y a une orientation des femmes qui dessinent vers l'illustration jeunesse qui est plus forte. Il y a évidemment beaucoup de femmes et de plus en plus qui font de la bande dessinée. Mais si on prend sur toutes les générations, sur les personnes qui sont en activité entre 20 et 60 ans, il y a quand même dans les générations précédentes, enfin, des personnes qui ont la quarantaine, cinquantaine, soixantaine, plus d'hommes que de femmes dans la BD. Ça se voit en festival, enfin, c'est vraiment hyper flagrant parce que je pense que c'était plus envisageable pour un homme que pour une femme de faire de la bande dessinée sa vie. Peut-être qu'il y a aussi plus de... C'est pas un secteur facile et c'était peut-être plus facile quand on est dans des positions plutôt privilégiées, enfin de privilège parce qu'on est un homme. Je sais pas, après ça c'est mon analyse, mais en tout cas il y a une... je pense qu'il y a cet aspect-là, on n'est pas orienté pareil en sortie d'études, on ne l'était pas en tout cas. Ça se rééquilibre ces dernières années, mais du coup les jeunes dessinatrices n'ont pas forcément autant d'expérience. Et nous, comme on a besoin de personnes qui scénarisent et qui dessinent, c'est vrai qu'on va chercher des gens où on sait qu'ils vont pouvoir s'emparer d'à peu près tout et avec qui on a déjà travaillé. Il y a un truc de réseau aussi. Les fondateurs de la revue dessinée, ce sont des hommes qui sont autour entre 40 et 55 ans. Et du coup, c'est leur réseau qui a été mobilisé à la base. C'est les gens avec qui on a plaisir à travailler et qui connaissent un peu la machine. Et on essaye d'ouvrir. Et je propose à des femmes, pas assez, mais aussi je me fais envoyer bouler. Et parce qu'elles sont sur des projets personnels, parce que pour plein de raisons, parce que ça rentre pas forcément dans leur centre d'intérêt ou dans leur parcours en ce moment. Et du coup, on essaye, mais on n'y arrive pas trop. Peut-être aussi parce qu'on n'a pas les réflexes, parce qu'on travaille avec des gens avec qui on a l'habitude de bosser, et du coup, on entretient ces schémas-là. Mais c'est sûr que c'est qu'on n'y est pas, quoi. Dans les pages de la revue, on voit qu'on n'y est pas. Et pour autant, on essaye. Et après, ça fait qu'il y a... Enfin, je ne pense pas que ça joue tant sur le contenu, dans le sens où on a une rédaction hyper vigilante sur ces questions-là, qu'on déniche de temps en temps quelques clichés sexistes dans les dessins. Et puis, on se dit que non, ce serait bien que la femme à l'arrière-plan, là, qui est en train de faire la cuisine... en fait, on n'en a pas besoin pour l'histoire. Et que si elle pouvait disparaître, ça tiendrait tout autant. L'enquête tiendrait tout autant. Donc, on a un regard hyper vigilant. On travaille avec des dessinateurs qui sont hyper vigilants aussi. La question de l'écriture inclusive le montre. Après, on a envie, besoin de bosser avec plus de dessinatrices qui aient envie et qui aient l'expérience et les compétences pour... et je suis sûre qu'il y en a plein, mais qu'on ne les a pas rencontrées et qu'elles ne viennent pas spontanément à l'esprit non plus, parce qu'on a ce fonctionnement-là. Voilà, mais c'est un défi, ouais.
Bah, c'est donc un appel.
Oui. Et donc, malheureusement, c'est déjà temps de vous quitter, Amélie Mougeil. Mais juste quelques mots sur les prochains numéros. Est-ce que vous pouvez nous annoncer quelque chose sur les numéros qui sortira donc en décembre?
Ouais. Alors, on va avoir un sujet par Camille Polony, qui travaille pour Les Jours, sur la relation de la police, et plus spécifiquement des policiers, à leurs armes de service. Donc, c'est... Parce qu'il y a, je crois, 245 000 personnes autour de nous qui sont armées, enfin, qui ont la possibilité de ramener leur Six Hour... J'ai oublié le numéro derrière. Enfin, en tout cas, leur arme chez eux, d'autant plus depuis les attentats. Et ça pose plein de questions. Et puis ça donne lieu à pas mal de scènes de reportage sur les stands de tir. Et c'est assez incroyable. On a ce sujet sur la page Wikipédia des Gilets jaunes par des journalistes data qui sont allés explorer les batailles d'édition derrière la page Wikipédia des Gilets jaunes. On a un sujet beaucoup plus intime sur la Turquie, enfin sur une histoire d'amitié qui nous amène en Turquie. Mais ça se lit, ça se raconte pas. Et puis j'ai trop le nez dedans pour... pas mal de chroniques. Une chronique sur la loi association de malfaiteurs qu'on interroge, une nouvelle enquête économique sur comment la finance s'empare de l'action sociale. Et voilà, d'autres... Enfin, on reste dans la ligne, quand même, grosso modo.
On a hâte de lire tout ça. Merci beaucoup, Amélie. À bientôt.
À bientôt. If I was you, I'd be dying to be a reflection of the person that you're seeing in me. Like I was born in the blue, but I don't see what I see, and I will concede until I'm achieving my dreams. So I'm flying. Economy, usually chasing paper, but normally paper ran for me. I'm hungry, my hungry, main thing is driving me. That pain deep inside of me has me reacting violently. And silently, I swear that I'ma go into the day that I get it in, but it appear to depend on life. Be back on the ground with a tan in the way. I said that I did it. Mom need bread, I'ma get it. Mom need to get it. At best, when I see the taste, that's hot lead as you give it. Damn. I wish I could go back to that man I used to be. If I was you, I'd be dying to be a reflection of the person that you're seeing in me. Like I was born in the blue, but I don't see by the sea. And I will concede until I'm achieving my dreams. So I'm flying. What's new, you starting with partner, I'll see you later. If I was you, I'd copy me. The game is a monopoly. People always profiting off the poor folk in poverty. And honestly, I did the same. Rob the poor so I can gain. Diamonds and them necklaces, earrings and all them shiny things. I'm a shank, ain't fun on that. Hand to the star with a gun in your back. You ain't that hard, you can hardly act. Ever ran up on the car with a 9 or a Mac? I did that as an itty bitty baby. Chitty chitty bang bang, cut back spray. I'm everything to lose over monetary gain. And get it from my daddy, he crazy. Go back to that man I used to be. If I was you, I'd be dying to be a reflection of the person that you're seeing in me. Like I was born in the blue, but I don't see by the sea. And I will concede until I'm achieving my dreams. So I'm flying. To the space I'm from. If you understand that you already know, the same way you came with the same way you're going. Say, I'm going home. I'm going home. Look, everybody stand up, hand to the sky. Thanks for living your life. Every day that you live on the grind, and legally living so you can survive. Say, I'm going home. I'm going home. I'm going home. Yeah. I used to hate the man I miss, living a life of sin. Then being in the game of men. Then I won't quit till I win. Then. Say as I gave him my best, with every gas in my breath, I'ma go hard till there ain't none left. You think I'ma feel that you don't know that. Notre deuxième morceau de la soirée, Flying Home, de Hannibal Leg. Et maintenant, c'est le moment de l'actualité BD.
Strip sismique sur Radio Campus, Paris.
Ce soir, on va vous parler des Morveuses de Rebecca Rosen, publiée par l'Emploi du Mois en septembre 2019. La vie intelligente d'Aurélie William Léveau, édité par Atrabile en février 2019. Et Les Royaumes du Vide d'Olivier Texier, publié par Cornelius en août 2019. On commence par Morveuse.
Julia, on t'écoute.
Alors Morveux, c'est une bande dessinée haute en couleurs, d'un genre comics américain à la Crumb, où le travail de l'artiste est mis en scène sous forme d'incise dans le récit, celui de la vie de Julia, une étudiante en école d'art à Bruxelles, qui vit sa vie amoureuse, militante, festive. Le style a de nombreux points communs avec certains comics américains. L'ambiance entre l'énergie de la créativité, de l'activisme des squats et de la musique qui contraste avec la mélancolie des souvenirs d'adolescence et la violence des relations qui frisent avec la drogue, le deuil et la folie. Alors formellement, le récit est, comme je le dis, entrecoupé de passages de l'artiste elle-même dans son école d'art, des réprimandes de ses professeurs, les linogravures qu'elle produit, et de souvenirs de sa mère, fatiguée, triste, envahissante. La trame du récit est sombre, mais tout l'intérêt de la bande dessinée tient dans le contraste entre cette noirceur et la vie qui éclate dans le récit. Esthétiquement, la forme de la BD rappelle des auteurs comme Charles Burns, même si très coloré, le dessin au trait précis, chirurgical, symétrique. Dans la forme comme sur le fond, c'est une bande dessinée que j'ai trouvée riche, complexe et bien ficelée, et qui parle pas seulement donc de cette personne, mais qui parle de l'euthanasie pour des patients psychiatriques chroniques autorisés en Belgique, ce qui est la thématique de société qui file un petit peu toute la bande dessinée. Et toi Camilla, alors qu'est-ce que tu en as pensé ?
Écoute, je trouvais cette histoire un peu étouffante, cette héroïne Julia tellement triste et paumée. Mais bon, l'angoisse qui passe par les nez, ça m'a plu. Les couleurs aussi sont très fortes, ils font un contraste avec cette histoire un peu maladie, morbide. Et j'ai beaucoup aimé les pages noires et blancs représentant les dessins glauques de Julia, les sérigraphies qui interviennent à tous les moments clés du récit. Donc je trouve ça, oui, intéressant, mais bon, un peu, voilà, ça m'a un peu déprimée. Mais bon, ça vaut quand même la peine de le lire, je pense. Donc n'hésitez pas. Et on passe maintenant à La vie intelligente d'Aurélie William Leveau, édité par Atrabile en février 2019. Donc, oui, c'est moi. Donc Aurélie William Leveau est une autrice, illustratrice et plasticienne belge, née en 1981. Dans son œuvre, elle interroge notre vie avec un humour particulier. Son dessin est souvent sur tissu, souvent violent. Wikipédia m'informe qu'elle est membre du collectif Liégeois Mycose et que son œuvre est au croisement de l'illustration, de la bande dessinée, du journal intime et de l'art contemporain. Je confirme, son dessin fait très contemporain, très chic. Elle a même illustré le nouveau catalogue de la saison théâtrale de La Colline. C'est un très joli mélange des broderies et des peintures sur drap, faisant dialoguer illustrations faussement religieuses et textes faussement décalés. Donc son dessin est fascinant. Son univers aussi, très tormenté, très sombre, viscéral. Dans son nouvel ouvrage, La vie intelligente, elle mêle davantage les textes et dessins au dessin, colorés sur du tissu. Donc au départ, cette œuvre, elle la voulait écrire à quatre mains avec son compagnon. L'un serait à l'illustration et l'autre au texte ou inversement, mais apparemment les éditeurs ont refusé, donc Aurélie a bien décidé d'être la seule à écrire et à dessiner. Je trouve, en lisant ça, je trouvais ça un peu dommage, car malgré la force du dessin, la beauté des couleurs, c'est difficile d'oublier la vacuité du texte. Avec une certaine rage, elle nous raconte sa vie d'artiste, sa vie des femmes et des mères, enfermée dans un espace intérieur. Elle explique que la vie d'artiste est précaire. Elle part des pizzas en héros. Et voilà, je suis assez mitigée. Mais bon, je trouvais quand même les dessins beaux. Mais c'est tout. Voilà, c'est un bel objet. Toi, Julia ?
Mais moi, je suis assez d'accord avec toi. Ça va pas être très, très contrasté. Mais voilà, sur la forme, j'ai bien aimé le format quadrichromie. Les dessins sont vraiment magnifiques. En revanche, je trouvais que les couleurs étaient... Ça donnait un résultat criard, en fait. Donc, je trouvais que l'exécution, finalement, était un peu décevante. Et sur le papier, c'est pareil. Sur le fond, il y avait un peu tout qui marchait. Je suis en gros d'accord avec toutes les idées, les opinions qu'elle a, les références. Elle parle de Monique Pinson-Charlot, ce qui n'est pas pour me déplaire. Et pourtant, ça fait flop. Bizarrement, ça ne marche pas, quoi. J'ai l'impression que ça ne me sortait pas de ma paresse d'entendre le monologue intérieur de quelqu'un d'autre. C'était un peu comme rester chez moi. Je me suis pas mal ennuyée sur toutes les 100 premières pages. Et après, elle fait une propre mise en abîme où elle dit « Oui, on va me juger, on va dire ensuite est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça l'est pas, on va mettre 7 sur 10. »
Oui, elle est toujours dans des peurs du jugement.
Oui, c'est ça. Et en fait, c'est pareil. Au lieu de me donner envie de ne pas la juger, au contraire, je me suis dit « Bah oui, en fait, même pas 7 sur 10. » quoi. C'est ça que ça m'a donné comme impression. Et elle dit aussi à un autre moment « Si j'avais eu un djihadiste sous la main, bien sûr, j'aurais écrit là-dessus. » Mais malheureusement, elle n'avait pas ça. Et ça me donne un peu l'impression que voilà, c'est encore une... Enfin, est-ce que les femmes qui font la BD sont cantonnées à écrire sur la domesticité, l'intérieur, sur le couple, sur la dépression ? Enfin, moi, ça m'a pas convaincue. Et le fait qu'elle utilise le pronom « elle » pour mettre ça à distance, au contraire, m'a donné vraiment l'impression de lire un journal intime de bout en bout. Et ça m'a pas tellement intéressée, quoi.
Et j'aimerais bien vous lire un mini-extrait donc, de La vie intelligente. Elle avait souvent regretté de ne pas avoir été diagnostiquée trisomique. Si elle avait été... trisomique, mais vraiment, pas une métaphore, elle n'aurait pas eu à justifier pourquoi son travail artistique n'était pas franchement malin. On ne lui demanderait pas s'il était féministe et quelles étaient ses influences, on la jugerait moins sur ce qu'elle était en mesure ou non de fournir. Et c'était bien justifié qu'elle continue à produire. Elle ne savait même pas pourquoi elle s'acharnait à continuer, les deux. Voilà, donc pour vous faire votre avis, n'hésitez pas à lire La vie intelligente d'Aurélie William Léveau. Et on passe maintenant au Royaume d'Ovide d'Olivier Texier.
Bon. Alors,
Michel, c'est à toi.
Oui, c'est à moi. Alors, donc moi j'ai lu Olivier Texier. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait quand même déjà plus de 20 ans qu'il publie des fanzines et des magazines, hein, même dans des trucs un peu connus comme Psychopathe, Ferraille, Spirou, etc. Bon, il a aussi publié une vingtaine d'albums. Et donc, je ne vais pas vous faire la liste. Hein. Moi, j'aime bien tout ce qu'il fait depuis longtemps. Alors, Le Royaume du Vide, vous y retrouverez quand même son style habituel. C'est-à-dire que là, vous aurez 64 histoires en format strip de 3 vignettes, en noir et blanc, dans un style un peu négligé qui lui est propre, avec un trait qui semble toujours un peu hésitant. Donc ça fait un fanzine, ça fait un style pardon, très fanzine, un peu punk, un peu rétro, dont le résultat, à mon goût, est toujours assez réussi. C'est une combinaison, le fait d'être drôle et fin en même temps, qui est quand même pas facile à obtenir. Et lui, il y arrive avec brio, je dirais. Alors, d'un point de vue graphique, le talent de Texier repose sur un dessin très expressif. Les choix des faciès, les grimaces, des différents personnages sont vraiment justes et variés. Sa gestuelle aussi, en général, très parlante. Ensuite de ça, malgré un style qui est quand même assez rapide, il y a toujours un bon arrière-plan qui bien souvent rappelle notre quotidien, même dans les situations les plus loufoques. Ce qui alimente le sentiment que l'univers absurde de Texier n'est pas si lointain de notre réalité. Donc, à partir de ça, qu'est-ce que vous aviez dans ce Royaume du Vide ? Toute une série de scènes avec des personnages plus absurdes et monstrueux les uns que les autres. Il y a des têtes coupées parlantes, une palanquée d'êtres ridiculement chétifs, et donc en général très drôles. Des personnages sans bras ou sans jambes, d'autres violemment estropiés, bornes ou je ne sais quoi d'autre. Les situations et les dialogues ne sont pas moins bizarres et entre guillemets choquantes. Alors on trouve des histoires en enfer, sur d'autres planètes, dans les égouts, au cinéma, dans une école de porno, chez le coiffeur, à la campagne, en prison, etc. etc. En fait, et c'est là où se trouve la finesse de Texier, le ressort comique ne se résume pas à de l'absurde un peu dérangeant. Les thèmes sociétaux sont très nombreux, pour ne pas dire omniprésents, et souvent sont intriqués entre eux. On y trouve du sexe, des riches, des pauvres, des patrons, des employés, des dépressifs, des morts, des aliens, des complots, des catastrophes environnementales, et j'en passe. Les thèmes sont si souvent connotés politiquement et moralement qu'on pourrait craindre un humour sous-moraline ou à l'inverse qui tomberait dans l'abject. Pour ma part, c'est ni l'un ni l'autre. L'opposition est comme transcendée par l'idée d'un grand délire, un peu humaniste. Toute la tension morale que l'on retrouve au quotidien de façon euphémisée ou implicite et qui guide en général nos actions, nos réflexions, nos expressions et nos relations quotidiennes, eh bien Texier les fait, à mon avis, exploser de façon crue, libératoire et jubilatoire. Alors, je vais vous donner quand même un petit exemple. J'en avais plusieurs, mais bon, on n'a pas trop le temps. C'est un exemple vraiment d'absurde et où justement on retrouve un problème existentiel. On y trouve donc 3 vignettes. Les personnages sont en enfer. Le premier, qui a d'ailleurs une tête incroyable, dit au second qui a les jambes coupées « Alors je suis mort hein ?» L'autre répond « Eh oui mon vieux !» Deuxième vignette « Et réincarné ici, entre guillemets en enfer, pour l'éternité ?»« Oh non !» Et le troisième vignette « Si tu fais pas assez gaffe, tu peux te faire bouffer !» Donc voilà, donc après il faut voir évidemment les images en plus parce que c'est quand même le ressort comique fonctionne aussi sur le visuel. Donc, en résumé, je ne peux que vous conseiller de lire Le Royaume du Vide, ainsi que toutes les productions d'Olivier Texier, en particulier si vous êtes une âme sensible.
Oui, c'est vrai qu'on adore Olivier Texier. Moi, j'aime beaucoup.
Oui.
Et je suis toujours étonnée face à toutes les petites créatures qu'il est capable de créer. Et il a cet humour, cette imagination débordante, par exemple, il y a les anges qui font l'amour avec l'aîné, voilà, ou les élèves escargots, j'ai trouvé ça passionnant. Mais dans tous les cas, on vous conseille de lire Le Royaume d'Ovide d'Olivier Texier, publié par Cornelius.
Dissection, nécropsie, vivisection de la bande dessinée.
Et maintenant, on passe à l'agenda BD. Donc, on a jusqu'à quelques rendez-vous à vous rappeler. Donc, jeudi 10 octobre à 17h, à la librairie Super-Héros à Paris, il y a Ludovic de Berne qui dédicacera son livre Épiphanie 3-3, paru aux éditions Casterman. Et on vous signale aussi la prochaine édition du Festival BD de la ville des Colomiers qui aura lieu du 15 au 17 novembre 2019. Au programme, des expositions, des spectacles, ateliers, rencontres avec les auteurs. Parmi les différentes expositions, on vous signale celle de Sarah Chevaux, De la Terre jusqu'au Ciel, et l'exposition monographique dédiée à Charles Barnes. La programmation est axée sur les soutiens à l'édition indépendante et à la jeune création. Voilà, on vous conseille de faire un petit tour à ces festivals qui semblent assez intéressants. Avec Strip Sismic, on vous donne rendez-vous en novembre pour notre deuxième émission. Cette émission a été préparée et présentée par Camilla Pizzichillo avec la complicité de Julia Legrand et Michel Carton. Et réalisé par Pierre Paul. Bonsoir à tout le monde, bisous.
Bonsoir.
Bisous.
Bisous.